Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Cette semaine débute le Grenelle des violences conjugales. Demain, plus précisément, donc, va débuter ce Grenelle. 1 million d'euros est déjà prévu, mais il est surtout question de prévention et d'aider à une meilleure collaboration entre les divers services de l'État. Alors, loin de moi, évidemment, l'idée de critiquer cette démarche. Je crois qu'il serait temps, en effet, qu'en France, le couple ne soit plus un lieu dangereux pour nous. Néanmoins, j'ai toujours pensé qu'il serait surtout important de mieux comprendre ce qui se joue dans les cas de violence conjugale afin de pouvoir agir bien en amont. Et il y a longtemps d'ailleurs que je propose que peut-être durant les cours de maternelle, on explique ce qu'est un petit garçon, ce qu'est une petite fille et ce que sera un homme, ce que sera une femme. Alors c'est peut-être un peu ce que je vous propose aujourd'hui parce que bon, j'ai posé cette question certes très polémique. Pourquoi en arrive-t-on à tuer par amour? Est-ce que c'est par amour ou est-ce que ce ne serait pas plutôt par haine de l'autre, haine de soi ou encore agressivité mal contenue qui déborde dans une violence qui devient tout à fait incontrôlable. Lequel d'entre nous d'ailleurs ne s'est jamais surpris dans un acte de violence un peu démesuré par rapport à l'événement qu'on était en train de vivre? On voit à quel point la colère parfois peut nous emporter loin et parfois malheureusement beaucoup trop loin. Alors est-ce que c'est un acte volontaire? Voilà la question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un excès d'émotion violente ou est-ce que c'est un sentiment de domination de toute puissance? Voilà autant de questions auxquelles on va essayer de donner quelques réponses ou en tout cas quelques pistes avec mon invité qui est avec moi, Anne-Laure Buffet. Et je vous invite bien sûr à nous rejoindre et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Vous l'avez compris, on va oser parler vrai, parce que c'est un petit peu la couleur de cette radio. Bonjour Anne-Laure Buffet.
Bonjour Brigitte.
C'est vrai que c'est un sujet difficile, c'est un sujet délicat, la violence conjugale. Alors à savoir, malheureusement, la centième victime a été tuée ce week-end dans le sud de la France. 100 femmes depuis le début de l'année, ça paraît beaucoup. J'ai pas exactement le chiffre, mais une vingtaine d'hommes quand même. C'est important de le signaler quand même si c'est évidemment minoritaire.
Oui, mais il faut quand même le signaler parce que ça reste minoritaire, bien évidemment. Il est évident que si ça reste minoritaire, on peut faire des rapports de force physique entre l'homme, la femme, etc. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont 20 hommes qui ont perdu la vue, que possiblement, s'ils étaient mariés ou en couple, il y avait des enfants, donc des enfants qui ont perdu un père, des enfants qui sont témoins. Je pense, à chaque fois qu'on parle de violence conjugale, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants, puisque bien sûr, les femmes meurent sous les coups de leurs conjoints, certains hommes meurent sous les coups de leur compagne ou de leur compagnon, mais il reste des enfants. Et les enfants sont
souvent assisté à des scènes de violence en amont. Hein.
En amont, ils y ont assisté, ils ont entendu, ils ont vécu dans un climat qui était totalement délétère. Donc, à chaque fois qu'on parle de violence conjugale, j'aime bien quand même rappeler, même si le sujet, c'est pas de parler des enfants, rappeler quand même qu'il y a des enfants qui se retrouvent totalement privés d'un et parfois deux parents. Et qui en plus ont grandi dans un climat de violence.
Alors là, c'est important, je vais le signaler parce que moi-même je ne connaissais pas réellement ce numéro. Je savais qu'il y avait un numéro que les femmes pouvaient appeler si elles étaient dans un climat de violence conjugale, c'est le 3919. Et rien que ça déjà, je trouve qu'on pourrait faire une campagne d'information plus soutenue dans les médias. Parce que la difficulté souvent, c'est qu'il y a déjà eu de la violence avant l'acte mortel.
Alors, il y en a une qui vient de commencer. Moi, je l'ai entendue pour la première fois ce matin à la radio. Pour annoncer à la fois le Grenelle des violences, donc qui commence demain, et le 39-19, puisque ça commence demain, puisque demain on est le 3-9-19, donc 39-19.
C'est pas mal vu.
C'est pas mal vu. Donc depuis ce matin, c'est vrai que j'entends beaucoup de publicité pour le 39-19. C'est vrai que c'est un numéro qu'il ne faut pas hésiter à composer. C'est vrai que si on fait des recherches sur Internet, si vous vous sentez peut-être en danger ou vraiment en danger si on va sur le site gouvernemental du 3919, il y a un onglet où on peut instantanément effacer l'historique de son ordinateur. C'est-à-dire que monsieur, ou éventuellement madame, monsieur, ne retrouvera pas dans l'ordinateur de traces d'avoir contacté le 3919 d'une manière ou d'une autre. Bon, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se mettre en contact avec eux. A priori, ils répondent de mieux en mieux, je dis bien de mieux en mieux, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à répondre au téléphone et donc à aider, à accompagner. Après, le numéro ne fait pas tout, loin de là, et c'est sûr qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour trouver des solutions en amont et après les violences, lorsque les victimes sont encore en vie.
Alors, je vous demande surtout, vous, de témoigner que vous ayez été vous-même victime, que vous ayez eu... à un moment donné, failli, ou peut-être que vous avez eu un geste de violence contre votre partenaire. Témoignez, parce que c'est grâce à vous toujours qu'on arrive le mieux à éclairer ce qui se passe en tant qu'être humain. On est, encore une fois, je le disais, hein, on peut tous à un moment donné avoir une colère qui déborde. Alors, de là à aller jusqu'à tuer, évidemment, ça paraît impossible. Mais je sais pas exactement, j'ai pas regardé en détail les 100 victimes, mais il y a peut-être eu des accidents, c'est-à-dire la femme est violentée, elle tombe sur l'arête de la table et elle se tue. Est-ce pour autant un acte volontaire? Bien sûr que non. Alors ce n'est pas excusable, encore une fois, hein, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est compliqué et que c'est peut-être, c'est pour ça que je disais, c'est en amont qu'il faut essayer d'expliquer aux garçons qu'ils ont de la testostérone, qu'ils peuvent très vite sortir de leur gond. Il faut expliquer aux femmes qu'on n'agresse pas, on ne va pas chercher un mec parce qu'on peut en effet le trouver. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on pourrait expliquer dès l'enfance.
Oui, absolument. C'est quand vous dites il faut expliquer aux femmes qu'on ne va pas les provoquer. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on provoque que l'on doit recevoir une gifle, voire bien plus grave. Mais si on doit faire un vrai travail de prévention, c'est comme vous le dites, et auprès des hommes, et auprès des femmes, et auprès des garçons, et auprès des filles, au-delà de toute question de genre ou de sexualité, c'est vraiment un travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dès la maternelle, où on ne cherche pas à recevoir la colère de l'autre, et on cherche à apaiser sa propre colère, puisque votre question, je vous l'ai dit, hein, la question de pourquoi peut-on tuer par amour, même si je sais que votre intention était de nous titiller un petit peu. Bien évidemment, on ne tue pas par amour, on ne crie pas par amour, on ne frappe pas par amour. Toute manifestation de colère ou de manifestation violente, c'est l'expression d'une frustration, c'est l'expression d'un mal-être. Donc c'est quelque chose qu'on tourne contre l'autre, mais qu'on devrait retourner contre soi-même. Si on arrivait un minimum à pouvoir former les plus jeunes, peut-être qu'on pourrait espérer atteindre à un moment un peu plus d'apaisement dans la société. Mais je pense qu'il va nous falloir encore au moins une bonne génération pour qu'on arrive à comprendre et à mettre en place un système plus rationnel.
Alors, ce qui est intéressant aussi, en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans d'autres pays d'Europe et j'ai vu qu'en Allemagne, alors l'Allemagne, on a l'impression quand même que c'est un pays assez civilisé, il y a encore plus de femmes tuées par leur conjoint. Et moi, j'y ai vu deux explications. D'abord, la première, c'est peut-être un peu plus patriarcal que chez nous, mais je ne suis pas toujours pour mettre en avant la cause patriarcale, bien que... quand même, on peut y penser. Mais il y a surtout une plus grande difficulté pour les femmes à travailler. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est que beaucoup de femmes qui sont dans des climats de violence, si elles pouvaient partir, partiraient en amont, enfin, peut-être.
Alors, en Allemagne, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la plupart des Länder, enfin de leur région, l'accès au travail pour les femmes est compliqué, particulièrement lorsqu'elles deviennent mères. Et il est compliqué pour plein de raisons, c'est que...
Il n'y a pas de crèche, par exemple.
Ils prônent beaucoup plus les valeurs familiales que chez nous. En tout cas, pendant très longtemps, ils les ont beaucoup plus prônées qu'en France. Il y a beaucoup moins de crèches, il n'y a pas de garde à domicile ou beaucoup moins. Donc il y a des difficultés de toute façon pour travailler quand on est une femme. Donc de fait... les femmes qui restent chez elles sont forcément beaucoup plus soumises au moins à tout ce qui est système économique, relations économiques avec leur conjoint. Si c'est un conjoint qui est encore dans un système très machiste, phallocrate, dominant, surpuissant, il est certain que la volonté d'émancipation de son épouse ne risque pas de lui convenir. Et comme on est quand même en 2019 et que heureusement il y a Internet, il y a des modes de communication qui ont évolué, bien évidemment elle reste pas enfermée chez elle à simplement essayer de s'occuper des enfants, elle s'informe. Donc tout ce mouvement au-delà de la France, ce mouvement mondial de libération de la femme, Dieu sait qu'il est important, mais bien évidemment en Allemagne, elles le vivent tout autant que nous. Et ça doit provoquer. Après, je ne vis pas en Allemagne, je ne suis pas allemande.
Bien sûr, bien sûr.
Mais j'imagine que ça doit provoquer des colères qui sont au moins aussi disproportionnées qu'en France, des demandes au moins aussi importantes du côté des femmes qu'en France, avec des réactions qui sont encore plus inappropriées dans le nombre, parce qu'il y a encore moins de possibilités pour les femmes de recevoir un soutien.
Alors, avant de vous donner la parole à vous qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300, je voudrais juste terminer par une note d'espoir. Aujourd'hui, enfin demain, démarre donc ce Grenelle des violences conjugales. Et le 39-19 a été mis en place. On a vraiment pris en compte cette violence conjugale. Alors qu'il y a un peu plus d'un siècle, un homme qui rentrait, qui voyait sa femme avec son amant et qui les tuait tous les deux, il était pratiquement gracié. Donc, ça avance quand même. Malgré tout, quoi qu'on en dise, la société s'arrange, même si on entend plutôt toujours le contraire. Moi, je trouve que quand même, c'est plutôt...
C'est, les femmes je veux dire, même... c'est, paradoxalement, je trouve ça très très bien qu'on parle de plus en plus des féminicides. Donc des femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Parce que ça oblige la société à prendre conscience qu'il y a réellement un problème. Il y a beaucoup de choses positives qui existent, qui se sont mises en place. Il ne faut pas l'oublier, c'est une évidence. Maintenant, on est obligé, si on veut affronter le problème, de considérer le problème et pas simplement de se dire il y a des choses qui avancent. Il y en a beaucoup qui stagnent et il y en a beaucoup qui ont même reculé. Mais effectivement, vous avez raison, il faut être positif. Si on a pu mettre des choses en place, c'est qu'on est capable de le faire, donc c'est qu'on est capable de continuer.
Allez, c'est à vous maintenant de prendre la parole sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Anne-Laure Buffet qui était avec nous, formée à la PNL et à l'analyse transactionnelle. On va évoquer donc avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, la violence dans le couple. Et on commence avec Vincent. Bonjour Vincent, merci de prendre la parole.
Bonjour mesdames.
Bonjour,
je tenais d'abord à vous dire que je suis très content de vous avoir au téléphone, puisque j'écoute parfois votre émission, Brigitte.
Merci.
Je vais rajouter que vous étiez une très jolie femme, et vous êtes une très jolie femme physiquement, mais indépendamment de ça, je trouve que vous êtes une très belle personne.
Merci.
Je trouve que vous faites preuve de beaucoup de patience et beaucoup de psychologie avec vos interlocuteurs, et je trouve que votre émission est très bénéfique.
Mais écoutez, c'est gentil d'y participer parce que c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye justement toujours d'ouvrir le débat, d'agrandir des sujets qui a priori sont très binaires.
Oui. Alors moi, par mon expérience, j'ai été en couple quelques années avec plusieurs dames avec qui ça se passait très bien, avec parfois des hauts débats comme chaque couple. J'ai vécu des périodes de crise où il y avait des disputes assez violentes. Et violente verbalement, hein, j'entends. Mais j'ai eu l'impression, et parfois dans quelques situations, l'impression que je pouvais, moi aussi, bien que je déteste ça, mais être violent avec ma compagne. Et j'ai vu parfois dans ses yeux la peur que je le sois. Donc je peux apporter, en effet, dire que même si on ne l'est pas à la base, violent, j'entends, les situations et les provocations qu'on peut faire l'un et l'autre peuvent nous amener effectivement à commettre l'irréparable. Moi, je ne l'ai pas fait, bien heureusement, mais je sais que j'ai parfois été à deux doigts de pousser la personne ou d'avoir un geste bien plus violent, et j'ai pu voir dans les yeux de ma compagne la peur parfois que ça arrive. Alors, ça dure une demi-seconde, mais effectivement, ça peut très très vite déraper, même si on n'est pas quelqu'un de violent au départ.
Donc, dites-moi. De toute façon, dans le couple. Il y a beaucoup d'émotions.
Oui.
Et forcément, les émotions sont parfois, quand il y a justement une dispute ou une crise, les émotions peuvent s'emporter. Enfin, l'émotion, on le sait, on n'a pas de contrôle sur son émotion. Surtout quand c'est la peur, la colère, ça peut prendre des proportions beaucoup plus grandes. Mais ce que je suis ravie que vous témoigniez, Vincent, encore une fois... Dans les crimes qu'il y a dans les couples, il y a des hommes qui sont des vrais salopards et qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont dans un machisme et qui méritent réellement d'être punis. Mais il y a certainement aussi des excès de violence qui sont dus à, comment dirais-je, à un manque de contrôle, momentané, quoi.
Mais je pense qu'il est important de faire le distinguo, et c'est bien que vous le fassiez, bien que je pense que la proportion des femmes qui décèdent malheureusement sous les coups de leurs compagnons soit relativement faible, mais je pense effectivement qu'il y a aussi des accidents dans l'eau, quelqu'un qui tombe mal, et bien entendu, on ne doit jamais porter de coups à sa compagne dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'effectivement, il est bien de faire le distinguo entre quelqu'un qui serait violent de façon régulière, et pour lequel ce serait ancré en lui d'avoir ce comportement-là, et aussi quelqu'un qui peut avoir une folie passagère, entre guillemets, et commettre l'irréparable. Je pense que ça arrive aussi, malheureusement.
Mais ce qu'il faut aussi, c'est que les femmes entendent qu'un homme qui est violent une fois et qui répète cette violence, il faut partir, parce que ça peut vraiment finir mal. Et c'est ça aussi le message qu'il faut transmettre.
De manière générale, la violence, si la personne qui fait acte de violence ne veut pas l'entendre, ne veut pas travailler sur elle, ne veut pas réfléchir, etc., etc., il y a une vraie problématique. Moi, la question que j'allais vous poser, Vincent, c'est est-ce que quand la crise se calme avec votre compagne, est-ce que vous avez la possibilité d'en parler, allez-vous ? Ou est-ce que vous changez de sujet pour éviter de tout conflit ?
Non, moi déjà, enfin, j'ai eu honte de moi, de ce que j'aurais pu faire, bien que je ne l'ai pas fait, mais bon, j'ai eu honte de voir que je pouvais moi aussi déraper. Et après, pour en avoir discuté avec ma compagne, j'essaie de faire comprendre aussi que oui, je n'aurais pas dû réagir comme ça, mais il faut aussi parfois dans la dispute faire preuve, bien que ce soit très difficile, faire preuve d'un peu de mesure, parce qu'on a tendance finalement à se provoquer l'un l'autre, mais ça va dans les deux sens aussi. C'est très dur de garder son calme dans cette situation-là.
Vous voulez dire que vous avez eu la sensation, dans les moments où vous avez failli, si je puis dire, vous avez eu la sensation qu'elle vous cherchait ?
C'est-à-dire que je pense que les deux protagonistes ont tendance à faire de la surenchère, ce qui peut amener à un débordement qui ne doit pas avoir lieu, d'accord, mais après, parfois, on a tendance à en rajouter, et ça peut conduire malheureusement à ce type de situation. Bien que il faut savoir se contrôler, je suis d'accord, mais parfois, dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il y a aussi
Mais moi, je suis ravie de votre témoignage, Vincent, parce que moi, c'est vraiment ma conviction, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux hommes à contrôler leurs forces violentes, et il faut apprendre aux femmes à ne pas aller chercher la confrontation corporelle face à un homme, parce qu'on est pratiquement sûr de perdre.
Oui, et puis pour compléter la discussion, j'ai été également avec j'ai eu une femme qui a traversé ma vie, qui elle-même avait été une femme battue. Et je sais que pour avoir discuté avec elle, au départ, quand elle était avec ce garçon, qui était quelqu'un de violent continuellement, malheureusement pour elle, elle avait le sentiment au départ que pour l'avoir vu violent avec d'autres, mais pour la protéger, elle avait l'impression de bénéficier de sa protection, jusqu'au jour où la violence dont il faisait preuve s'est retournée contre elle. Mais au départ, comme c'était quelqu'un d'assez fragile, elle s'est rapprochée de cette personne-là en pensant qu'il allait pouvoir la protéger, sauf que malheureusement, c'était quelqu'un qui certainement n'était pas bien avec lui-même. Et un jour, la violence s'est reportée contre elle. Donc parfois aussi, on est attiré par des personnes pour des mauvaises raisons aussi. Ça peut arriver de se faire leurrer par des choses. Bon, bien souvent, c'est qu'on est soi-même un peu fragile. Mais il y a parfois des dames qui peuvent être attirées par ce type de personnage-là. Et il faut faire attention. On dit que l'amour rend aveugle, mais je crois que dans ce cas de figure, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que parfois, on peut être attiré par quelqu'un qui, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a beaucoup de testostérone, qui fait preuve d'un certain machisme, mais au départ, qui peut être séduisant. Mais j'aurais tendance à...
Mais Vincent, je suis d'accord avec vous, mais c'est là où effectivement c'est tout un travail de formation et de prévention que nous avons à faire auprès des enfants. C'est-à-dire que cette femme dont vous parlez et beaucoup d'autres qui confondent finalement force, protection et violence qu'elles ont même pu observer. Alors on va pas rentrer dans le débat, c'est les contes de fées, etc., qui ont déformé la compréhension de ce que la relation entre l'homme et la femme devrait être, mais il n'empêche qu'il y a encore tout un travail à faire auprès des petites filles, auprès des petits garçons, auprès des adolescents, auprès des jeunes adultes, pour arriver à faire comprendre que la force, la violence et la protection sont des choses qui sont complètement différentes. On n'a pas besoin d'un homme violent qui va taper du poing sur la table pour se sentir protégé. Donc si elle va le chercher, c'est qu'il y a aussi une problématique qui n'excuse en rien le comportement de monsieur, mais elle a une problématique en elle qu'il va falloir aussi qu'elle règle.
On parle de tout ça avec vous, bien sûr, et merci beaucoup Vincent. Je crois que c'est des témoignages comme le vôtre qui montrent à quel point c'est complexe et qu'il faut vraiment ouvrir le débat sans avoir peur de dire des choses qui sont peut-être pas tout à fait politiquement correctes en ce moment. Merci beaucoup Vincent. On se retrouve dans un instant avec notre Sexy News.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons Flore Chéry. Bonjour Flore.
Bonjour Brigitte.
Vous allez nous faire un petit cours d'écologie ?
Oui, c'est un petit cours d'écologie, ouais, pour changer un petit peu. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle des relations hommes-femmes pas toujours très heureuses, parce que on sait aujourd'hui que les hommes comme les femmes sont capables du meilleur comme du pire, capables de se fédérer pour mieux s'autodétruire, capables de souiller ce qui peut les nourrir, capables de saccager pour mieux s'enrichir, capables de fermer les yeux sur des dangers pour se faire élire. Je voulais vous parler de sexe et d'écologie.
Bah oui, vert, normal, vous faites des verts.
Voilà, pas mal. On peut penser que les deux n'ont rien à voir, et pourtant le sexe c'est un business, et comme chaque business, il est concerné par des enjeux éthiques et écologiques. Je voulais vous parler plus particulièrement de Pornhub, la plateforme de porno, et de sa dernière campagne de communication. Pornhub vient de sortir le porno le plus sale du monde, the dirtiest porn ever. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? Non, pas de Brigitte Lahaye à l'horizon, bande de mauvaises langues, ni de double sodomie sans lavement anal, ni de lavage gastrique à coups butoirs de gorge profonde, ni de saut d'urètre qui remue du smegma. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans mes phrases, je vous laisse aller chercher tout ça sur Internet. Ça vous...
Smegma, je pense qu'ils ne vont pas tous comprendre.
Voilà. Mais vous allez chercher tout ça sur Internet, ça va vous aider à digérer. Bon, il n'y a pas non plus de maltraitance animale, hein, bien que cela touche aussi à l'écologie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce porno ?
Ben, je sais pas, parce que vous avez déjà dit tout ce qu'on pourrait y trouver. Je sais pas, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Plantes.
Des plantes ?
Je sais pas, j'ai écolo, plantes.
Du vomi ?
Du vomi. Non, je pensais que vous allez me sortir des trucs marrants comme des pollutions nocturnes, mais bon, je vois que c'est à moi de faire toutes les vannes dans ma chronique, hein, on n'est pas aidé. Donc, on y voit un couple faire l'amour en gros plan sur une plage polluée par des détritus en plastique. Non seulement
c'est pas des préservatifs.
Donc c'est pas des préservatifs. Non. Hein, non, on a des bouteilles, on a des emballages. Donc c'est curieusement bandant parce que ça reste excitant. Mais l'idée c'est que Pornhub, à travers ce film, reverse à chaque vue des fonds pour une association qui nettoie les plages et les océans. Ça s'appelle Ocean Polymers. Voilà, Pornhub dénonce. Notre monde se transforme petit à petit en trash porn. Alors trash porn, c'est comme le foot porn, mais c'est après avoir consommé. D'ailleurs, c'est pas la première fois que la plateforme communique sur l'environnement. Elle avait lancé il y a quelques années Bisexual. Non pas que les bisexuels soient une espèce protégée. Bi, ça s'écrit avec deux E comme l'abeille en anglais, bi. Et c'était une plateforme porno qui collectait des dons pour sauver des abeilles, non seulement pour faire plaisir aux amateurs de pipo-miel, mais également pour ceux qui 6 millions de kilos. On peut imaginer un jour sur une industrie dont l'empreinte n'est pas neutre. Pour sauver les océans, il y avait aussi, rappelez-vous, j'en ai parlé il y a quelques années, l'opération Don't Fuck the Ocean, Do It With Yourself, où l'on pouvait acheter des dildos faits en plastique recyclé. Un bon moyen de se faire du bien à soi comme à la planète.
Bon, eh ben écoutez, ça ne nous a pas mis en appétit, hein, votre...
Non, désolée.
Votre truc,
de toute façon, on en est à la digestion, a priori, à cette heure-ci. Donc.
Et pourtant, faire l'amour dans une prairie, dans une forêt, sur le sable, c'est très romantique. Là, vous nous avez complètement cassé l'ambiance.
Ah, j'ai tout gâché, ben oui, avec mes pesticides et ma pollution. Ben oui, mais il faut y penser aussi. Non, je trouve ça bien, parce qu'il y a de plus en plus de marques, il n'y a pas que Pornhub, qui s'engagent pour une sexualité qui prend en compte l'écologie. Il y a aussi aussi des préservatifs qui sont faits dans d'autres matières que le latex. Il y a aussi des lubrifiants qui sont faits dans de matières bio. On évite les sphalates de plus en plus dans les sextoys. Donc, non, il y a un marché, on appelle ça peut-être le green sex, qui est clairement en train de bouger et qui fait plaisir. Et qui, parce que c'est un business comme un autre et qu'il faut aussi qu'ils se mettent au vert. Donc, je trouve ça plutôt chouette.
Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que de toute façon, tout le monde joue sur les modes du moment.
Hein, oui, et donc, ça reste un coup marketing, bien évidemment.
On voit pas pourquoi le porno ne ferait pas pareil. Merci beaucoup, Fleur Chérie. En tout cas, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur union.fr, puisque vous êtes journaliste sur ce site également. Et vous êtes co-créatrice avec Arthur Vernon de mysuitefantasy.com, qui paraît-il, Arthur, qu'on a reçu la semaine dernière, nous disait que ça marche de mieux en mieux.
Ah oui, ça marche très très bien en ce moment.
Bravo.
Oui, on a des commandes très très régulièrement. Donc,
bon, il faudra qu'on en parle de tous ces fantasmes.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Flore.
Merci.
Alors, c'est Jonathan qui va tester son quotient sexuel. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Roger.
Bonjour. Alors, trois questions et vous allez essayer de nous faire un sans faute. Hein. Bon, peut-être que Anne-Laure Buffet pourra vous aider un tout petit peu. On ne sait jamais.
Avec plaisir, elle a l'air d'avoir quelques connaissances qui pourraient être utiles.
Alors, première question, qu'est-ce qu'on appelle un fist-fucking ?
Eh bien, c'est l'action de rentrer son poing dans un orifice au choix hein, d'une autre personne. Ou de soi-même, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça.
Oui. Bah, écoutez, c'est une excellente réponse. Hein. C'est en effet une pénétration vaginale ou anale avec le poing.
Voilà, fist, poing, fucking, ben bah, voilà.
Je vois que vous regardez des films porno, Jonathan.
Oui, ça m'arrive, mais j'ai pas le genre de film que je regarde, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin.
Non, bon, je n'interprète rien. Et il paraît qu'il existe même des doubles fist-fucking, donc c'est à ce moment-là une pénétration vaginale et anale avec les deux mains, quoi, voilà. Bon.
Ça doit faire mal, ça. Ouais.
Je ne sais pas et je n'ai pas envie d'essayer. Ma conscience ouais. professionnelle s'arrête à un certain point. Deuxième question. Quel est le nombre moyen d'érection d'un homme par jour ? Enfin, on pourrait dire.
Je vous donne un chiffre exact ou c'est une fourchette ?
Oh, je vous laisse une fourchette.
Direction moyen chez un homme, n'importe quel âge, c'est quoi le...
Bon, c'est un nombre moyen, je vous laisse de me dire...
Je sais pas, je dirais entre 3 et 5.
Ah, vous êtes modeste, Jonathan. Bon, je vous accorde la bonne réponse, parce qu'après tout, c'est vrai qu'on c'est certainement vrai sur les hommes plus âgés, c'est certainement faux sur les adolescents. On considère que c'est une dizaine d'érections par jour, d'érections donc spontanées, hein, bien sûr. C'est quand même pas mal, hein.
Ouais, d'accord.
C'est
d'accord,
beaucoup.
Ouais. Des vraies érections ou ce qu'on appelle des demi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Enfin, après.
Parce que des fois, on peut ressentir une excitation, voilà, et dans une situation qui nous oblige à la modérer, par exemple, et où l'érection totale n'a pas lieu forcément, quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est surtout la nuit hein, que vous avez des érections, en fait. Donc c'est normal que
vous.
Vous
parlez de la nuit aussi.
Ça fait partie du jour, la nuit.
Ouais, je sais pas.
Bah, si.
C'est quand la nuit s'arrête, le jour commence.
Donc c'est pour ça
24 heures.
Comme ça. Ouais, voilà, c'était peut-être une journée de 24 heures. Ouais. Si vous m'aviez dit ça, j'aurais peut-être.
Vous auriez multiplié par deux.
Nuit, ça, sûr, ouais.
Vous êtes vexé.
Ah oui. Ouais. Comment?
Vous êtes vexé pour avoir dit entre 3 et 5 et on vous a dit 10.
Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, j'ai absolument pas de. J'ai rien à prouver. Non, mais c'était parce que si vous m'aviez dit que c'était une journée de 24 heures entières avec la nuit, peut-être que j'aurais dit un peu plus en effet. Parce que moi-même, quand je me réveille la nuit, c'est vrai que je suis souvent en érection.
Voilà, donc c'est pour ça que 10, ça me ouais. paraît tout à fait.
Tout à fait. Ouais. Si on inclut la nuit, en effet, ouais.
Et alors, dernière question qui est un peu plus d'ordre culturel ou général en tout cas. Ouais. Vous avez peut-être déjà entendu parler du premier bébé éprouvette qui s'appelait Amandine.
Oui.
On parle beaucoup de la PMA en ce moment. Donc j'aurais oui. voulu que vous me donniez en quelle année est née Amandine, donc ce premier bébé éprouvette. Alors là, je vous accorde aussi quelques années d'écart. Hein.
J'en ai pas la moindre idée.
Essayez de réfléchir.
J'en ai pas la moindre idée,
le premier bébé éprouvette. Alors, réfléchissez un petit peu.
Moi, instinctivement, j'aurais dit dans les années 90, mais c'est peut-être plus tôt que ça.
C'est un peu plus tôt que ça, oui.
Ouais, c'est années 80 ?
C'est pas mal. 82.
Ouais.
Vous imaginez quand même les progrès de la procréation médicalement assistée. 82, le premier bébé éprouvette. C'est vrai que c'est pas hier, mais enfin c'est quand même.
Non, mais c'est quand même intéressant aussi. C'est quand même récent quand même. Hein. 82, c'est pas vu.
Il y a un peu plus de 50 ans.
Ce bébé a 37 ans. Je fais tout le temps des rapports au temps, hein, faut pas.
Oui, mais ça veut dire que ce bébé éprouvette,
qui est encore un miracle pour beaucoup de gens, a 37 ans. Donc elle est peut-être maman ou.
Sans doute, on peut l'imaginer.
Peut-être pas encore grand-mère, mais en tout cas maman.
Et ce qui est intéressant à signaler aussi, c'est qu'à l'époque, ça avait fait un scandale. Hein. Donc, comme quoi, le monde change, Jonathan. Et puis, bon, bah, vous êtes.
Après, moi, je comprends que ça fasse scandale en ce sens que. Moi, je suis plutôt du genre à me dire, si la nature ne me permet pas de faire quelque chose, c'est peut-être qu'il y a une raison et je vais essayer et je vais pas vouloir forcément, vous voyez. Voilà, c'est un autre sujet et on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, je pense. Mais c'est.
On est plus sur
une façon de voir les choses et sur des rapports moraux là que sur vraiment un truc, voilà.
Oui, bien sûr, mais si on laisse faire la nature, il faut arrêter de prendre des antibiotiques, il faut arrêter de faire de nous ouvrir le ventre avec le bistouri pour nous enlever un organe malade. Enfin, voyez,
c'est différent pour moi. Mais c'est sûr que là, on part sur un truc.
Il faut arrêter la pilule. Voyez, donc c'est complexe.
Ah oui, mais alors ça, je suis pas contre moi. Mais bon, je suis pas une femme, alors j'ai pas trop mon mot à dire là-dessus parce que c'est plutôt aux femmes de gérer ça. Mais comment ?
Il faut aussi arrêter le Viagra.
Ouais, alors moi j'en prends pas encore.
Non, mais vous verrez, quand vous aurez 20 ans en plus, vous serez bien, bien d'accord. Donc vous voyez, c'est pour ça. Je pense que toute avancée médicale, je dirais même toute avancée que l'homme a su faire, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on vit si vieux aujourd'hui. C'est quand même grâce à notre intelligence. Donc après, mais parallèlement, et c'est là où je vous rejoins, Jonathan, parallèlement, c'est vrai que de temps en temps, une vraie discussion intelligente d'éthique entre gens sensés qui savent entendre les contradicteurs, ça serait bien, oui.
Oui, tout à fait. Moi, je suis pas du tout contre les avancées médicales qui sont fantastiques, surtout au niveau chirurgical. On fait des trucs incroyables, c'est vraiment fantastique. C'est surtout les portes que ça ouvre derrière, et c'est ces portes-là qui s'ouvrent, sur lesquelles parfois les discussions sont un peu fermées, et on évite taxer de telle ou telle injure quand on a telle opinion dessus. Et c'est juste ça que je regrette un petit peu. Mais après, le fait que la médecine et que la chirurgie évoluent, c'est fantastique.
Non, mais vous avez raison, on est dans une société actuellement où on n'a presque plus le droit de dire ce qui n'est pas la pensée dominante. Hein,
oui, voilà, il y a des trucs à dire, et puis si on ne les dit pas, voilà, il faut s'attendre. Enfin, surtout pour des gens qui sont dans des situations publiques. Après, des gens comme moi qui sont des anonymes, ça va. Et encore, ça peut aller vite au niveau social, on peut vite être catalogué. Mais surtout des gens qui ont des postures publiques, le moindre écart, des fois, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire, quoi. C'est affligeant. C'est affligeant. Voilà.
Bon, bah écoutez, on essaye de continuer à dire les choses dans cette émission et dans cette radio. Bon, voilà.
Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible.
Pour l'instant, ça va.
Mais c'est intéressant, hein, parce que ça montre bien qu'on est dans une société qui est très agressive. Pour revenir au sujet de la jour, on est dans une société qui est très agressive et où on a presque le sentiment que chacun s'observe, public ou pas public, hein, que chacun s'observe, non pas pour construire quelque chose, mais pour aller chercher l'erreur, aller chercher la faille et taper dedans. Alors si c'est valable au sein de la société, c'est forcément valable au sein d'une famille, c'est forcément valable au sein du couple, de tout le temps se dire, je vais presque inconsciemment guetter la faute pour pouvoir la mettre en avant et se dédouaner soi-même de je ne sais quoi.
C'est facile aujourd'hui, hein. Il y a des sujets sur lesquels il suffit d'appuyer un peu pour prendre le dessus très facilement, parce qu'il y a des sujets qui terrorisent beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est vrai que c'est très facile. C'est regrettable, et bien, parce que tout ça, ça tue l'intelligence, parce qu'au final, on ne raisonne plus, on répond à des... comme si on appuyait sur des boutons, quoi. Dès qu'il y a un sujet qui est abordé, il faut avoir telle posture, sinon ça va pas, et du coup, bah, c'est dommage pour l'intelligence, quoi, parce qu'on peut plus trop réfléchir, quoi.
Eh ben ouais, on va continuer. En tout cas, vous avez fait preuve d'intelligence sexuelle, en tout cas, puisque vous avez réussi votre quotient sexuel. On vous enverra un livre, Jonathan. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant et on donnera la parole, bien sûr, à vous qui voulez réagir sur les violences conjugales. 0826 300 300. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Anne-Laure Buffet aujourd'hui. Vous faites également beaucoup de conférences et vous avez écrit un livre d'ailleurs, Victime de violences psychologiques. C'était aux éditions Le Passeur. Et il me semble que Sophie vous doit beaucoup. Bonjour Sophie.
Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Sophie.
Donc oui, vous avez connu plusieurs hommes violents, hein.
Oui, quatre en tout, sachant qu'à chaque fois, bien évidemment, le dernier va me sauver du premier, ainsi de suite. Hein. C'est le discours qui m'est tenu. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, je retombe dans cet enfer-là. Et puis, je retombe dans cet enfer-là aussi parce que, bah, quelque part, ça, c'est le goût du bain de mon enfance. Pour moi, au départ, j'y vois pas trop de mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui me convient pas, mais je peux pas l'exprimer.
Couleur qui vous est familière, en quelque sorte.
Voilà, complètement, oui, puisque c'était déjà ça dans ma structure familiale quand j'étais jeune.
C'est-à-dire, votre père était violent
Voilà, c'est ça, mon père était violent. Ma mère était complètement elle-même aussi soumise, prise au piège, et dans la capacité de réagir, puisque elle-même, sa propre mère, était aussi... a vécu dans ce climat-là, avec donc du coup le père de ma mère qui était lui aussi violent avec elle. Violent aussi bien physiquement que psychologiquement, hein, tout ce qui est le fait de rabaisser et autres.
C'est important ce que vous dites parce que vous en parliez, Anne-Laure Buffet, au début de l'émission, hein, de ce que vivent les enfants. Mm-hmm. Et oui. On voit là, dans le cas de Sophie, que l'enfance... programme, si je puis dire, la vie maritale ensuite, quoi.
Ah, elle conditionne beaucoup. C'est pour ça que, oui, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je pense que parler encore une fois de toutes ces violences, parfois dramatiques, c'est essentiel. Si on n'oublie pas les enfants, puisque c'est le cas de Sophie, c'est le cas de tant d'autres, où finalement, il y a même pas d'interrogation qui se pose. Ce qu'elle vit est d'une certaine manière normal et autre chose serait en dehors de sa norme. Donc elle ne peut que répéter. Donc c'est vrai que si dès le plus jeune âge et puis même dès la grossesse, on reprend des politiques d'information et de prévention et qu'on s'intéresse réellement à ce que peuvent ressentir les enfants et à ce qu'ils peuvent mettre en place, peut-être que ce que je disais tout à l'heure sur une, deux générations, parce qu'il faut du temps pour que ça s'installe, les choses vont se modifier. Non, quand Sophie dit que c'est ce qu'elle a connu, c'est ce que sa propre mère a connu, donc avec le père, le grand-père de Sophie, encore une fois, comment imaginer, surtout pour vos premiers compagnons, que ce qu'ils vous proposaient était extrêmement dangereux, anormal, illégal, etc. Et vous l'avez dit, l'un chasse l'autre, mais l'un chasse l'autre en vous faisant miroiter une protection ou un amour ou une possibilité de vous éloigner de toute violence. Donc il y a le besoin candide de l'enfant de savoir que peut-être que quelqu'un va enfin lui tenir la main et servir de paravent ou de parapluie à tout ce qui pouvait lui tomber dessus avant.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez, parce que là, on entend bien, hein, vous avez pris conscience de cette répétition.
Oui, ce qui va faire ça, c'est en fait, je vais avoir une collègue qui va m'alerter en me disant, l'homme que pour l'instant avec lequel tu es en relation, c'est mon ex-partenaire. Et elle va me dire, c'est tes propres recherches, elle me dit, interroge-toi sur son caractère, sur ce qu'il est lui. Elle me dit, moi je préfère que tu fasses tes recherches et que tu le découvres par toi-même. Et je vais donc effectivement additionner tout ça, en fait, rechercher et tomber sur le profil de l'homme, en fait, pour lequel je suis complètement éperdument en prise. Je ne vais pas parler d'amour, mais vraiment d'emprise. Et donc je vais faire des recherches. Et dans les recherches que je fais, je tombe du coup sur cette vidéo qui est sur YouTube et que j'invite pour ceux qui ne l'ont pas vue vraiment à aller voir, qui est donc du coup la conférence que vous avez faite, Anne-Laure, à ICI les Moulineaux, et si c'est l'une des premières conférences d'ailleurs sur l'emprise. Mmh. Et je vais, dans l'année qui va s'écouler, je vais la passer quasiment une à deux fois par jour au minimum.
Pour réellement l'intégrer, hein.
Pour l'intégrer, parce que d'abord c'est une caisse de résonance qui va vraiment se diffuser en moi, mais quelque chose d'énorme. C'est les mots que j'ai toujours rêvé d'entendre, parce que enfin on met des mots sur tout ce qu'on ne dit pas, sur tout ce qui ne s'explique pas. C'est expliqué avec beaucoup de délicatesse, d'attention, et en même temps c'est compréhensible. mais c'est tellement un concentré en deux heures que
vous voulez,
voilà,
dire,
moi,
que,
j'ai
vous voulez dire que Anne-Laure Buffet n'a pas un discours de psy auquel on ne comprend rien?
C'est ça. Ah non, oui, il en fait partie des gens qui m'ont réconcilié avec la profession. Hein.
Merci.
Oui. Et puis surtout cette bienveillance, en fait, cette bienveillance dans le ton, voilà, c'est répondre à une question compliquée par des mots simples, et ça, c'est un exercice, à mon sens, qui est très difficile et dont peu savent le faire. Et donc, du coup, dans cette année-là aussi, je vais moi aussi rencontrer une thérapeute qui me suit toujours à l'heure qu'il est et qui a pareil aussi cette bienveillance-là, cette qualité
cette empathie,
d'écoute,
oui.
Cette empathie aussi, qui est très aussi professionnelle, hein, et qui du coup va me permettre de faire tout un travail. Et aujourd'hui, j'ai plus de 2 ans de thérapie avec elle.
Et vous avez quitté cet homme ?
Oui. Et c'est aussi l'intervention que j'aimerais faire aussi à la radio, parce que effectivement, pour être encore en contact avec beaucoup de victimes dans cet enfer-là, leur porter aussi ce message d'espoir-là et de dire qu'effectivement, moi j'ai connu ça plus de 20 ans. Le père de mon enfant l'est aussi, hein, donc je travaille d'arrache-pied toujours alors qu'il est avec mon enfant qui a 8 ans. Et donc je suis toujours quelque part un peu dans ce combat-là, mais en parallèle de ça, j'ai eu l'énergie à un moment donné, le rebond, et puis tout un travail derrière pour pouvoir refaire ma vie. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et qui avec lequel ça se passe très très bien, et tout ce travail-là que j'ai fait en amont aussi, j'insiste sur le fait vraiment à un moment donné de c'est difficile vraiment de s'en sentir seul, et moi je n'y crois pas au fait d'arriver à se sentir seul de ça.
Surtout quand on a vécu un enfer familial, je crois, Sophie. Oui. Une femme qui a eu, j'allais dire, une enfance normale, si ça existe, elle tombe sur un homme un peu violent qui commence à lui donner des coups. Je pense que celle-là va peut-être pouvoir réagir assez rapidement seule.
Oui.
Mais quand on a eu un climat familial empreint de violence, je pense que c'est très difficile de s'en sortir.
Et des schémas qui se répètent. Il y a un moment où il est possible de se dire, mais finalement, puisque ça se répète de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Donc, c'est un cas qui arrive malheureusement régulièrement. Des personnes qui se disent, de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Mais si je suis toute seule, je ne suis vraiment plus rien. Donc, je vais rester avec quelqu'un qui est violent. J'admets la violence, mais je ne le quitterai pas pour ne pas être seule. Sophie, je voulais vous dire, d'abord, je suis assez émue par le retour que vous faites. Voilà, merci beaucoup. Et puis c'est vrai qu'en 2 ans, c'est quand même un très beau parcours dont vous pouvez vous féliciter, parce qu'il faut admettre la violence, il faut admettre qu'on vit avec quelqu'un qui est un auteur de violence, il faut admettre qu'on peut avoir une part de responsabilité à un moment, si ce n'est une responsabilité première tournée vers soi-même, qui est celle de partir et de mettre en place autre chose. Comme vous le dites, on ne s'en sort jamais seul. C'est pas pour ça qu'on est faible. Et je pense que c'est très important de le dire aux auditeurs. C'est pas parce qu'on ne fait pas, c'est pas parce qu'on a besoin d'un travail thérapeutique qu'on est faible ou qu'on est stupide ou je ne sais quoi. C'est simplement que le recadrage et l'accompagnement doivent être tellement importants. Il y a un moment,
il faut réapprendre,
seul, on tourne
il faut
en boucle,
réapprendre une langue, la langue de l'humain,
complètement,
hein, c'est
complètement.
Tout.
C'est réapprendre à marcher. On a un accident de voiture, on doit avoir de la kiné pour apprendre à marcher. On le fait avec un kiné. Et quand on a un accident de la vie, parce qu'on a quelqu'un de violent dans sa vie, on réapprend à vivre. Et il y a une espèce de kiné, en l'occurrence, c'est la thérapie, qui se met en place. Donc, c'est quelque chose que je propose assez souvent comme image, mais en disant n'ayez aucune honte, aucune gêne, aucune culpabilité à aller voir un psy, quel qu'il soit, à partir du moment où vous ne lui demandez pas de vous porter, mais où vous faites le travail avec lui.
Au contraire, c'est le courage de la victime qui décide de ne plus l'être.
Oui.
Sophie, est-ce que ma question est un peu, je veux dire, elle est un peu violente, mais j'ai envie de vous la poser, donc je vous la pose. Est-ce que vous avez réalisé que vous auriez pu vous aussi mourir sous des coups ou pas ?
Ah oui. Moi, j'ai passé de la mort plusieurs fois de manière très très proche. mais vraiment.
D'accord.
Voilà, oui, non, non. Je me permets de rebondir hein, sur ce qui était dit précédemment et de rajouter ça. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est finalement d'entendre de la part de ma thérapeute comme cette espèce d'apprentissage, en fait. Je lui dis, mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et elle me dit, mais petit à petit, vous allez voir, ensemble, on va apprendre. Et effectivement, c'est cette histoire de remettre les barrières et surtout d'entendre, ça, c'est normal, ça, c'est pas normal, ça, c'est bien, absolument. Ça, c'est pas bien. Ouais. Et ça a été le rôle, en fait, de ma thérapeute et ça a été le rôle aussi d'Anne-Laure Buffet, par l'intermédiaire de toutes ces interventions médiatisées qui sont, à mon sens, j'aimerais tellement que vous puissiez être beaucoup plus diffusé et médiatisé que ça. Parce que vraiment,
c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui, Sophie. Anne-Laure Buffet. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, de ce très beau témoignage.
Et bravo. C'est courageux.
On va continuer après les infos, bien sûr, avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. La devinette du jour, à quoi reconnaît-on un mari bien dressé? Je vous donne la réponse après les infos.
14h, 16h. Brigitte Lahaie. Sud Radio.
Demain débute le Grenelle des violences conjugales et donc on évoque ce sujet aujourd'hui avec Anne-Laure Buffet qui est avec moi, qui donc vous l'avez entendu grâce à Sophie qui a fait une conférence qui existe sur YouTube si vous voulez aller la voir si vous êtes victime de violences conjugales. On essaye d'ouvrir le débat, de donner la parole à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin et vous pouvez donc nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. La petite devinette du jour, à quoi reconnaît-on un mari bien dressé? Vous n'avez aucune idée, Anne-Laure Buffet.
Ça n'a aucun rapport avec la question que vous avez posée tout à l'heure sur le quotient sexuel et le nom
d'érection. Pas du tout.
Bon, d'accord.
Bon, eh bien, on reconnaît un mari bien dressé à ce qu'il comprend à demi-mot ce que sa femme ne dit pas. C'est ça, un mari bien dressé. Hein,
il y en a pas beaucoup. Il est très à l'écoute.
Il n'y en a pas beaucoup qui sont bien dressés. Évidemment. Bon, en tout cas, on va continuer avec vous, bien sûr. Et puis, je voulais aussi vous donner la petite pensée du jour. J'ai eu du mal à trouver une pensée qui convenait bien au sujet, mais j'en ai trouvé une. C'est Henry Kissinger qui a dit ça. Personne ne gagnera la guerre du sexe. Il y a trop de liens avec l'ennemi. C'est joli, hein ?
Ah oui, c'est très joli.
Voilà.
Je vais la noter. Très joli.
Bon. Jérôme, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de prendre la parole, Jérôme. Merci beaucoup, parce que c'est important aussi que les hommes s'expriment, et notamment lorsqu'ils ont été violents par le passé, ce qui semble être votre cas, hein, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Et ce que le geste a d'inacceptable aussi, parce que ça m'est arrivé à deux reprises il y a quelques années. Donc ensuite, j'ai suivi une thérapie de couple, une thérapie moi aussi, avant de pouvoir m'apercevoir que c'était inacceptable aussi comme geste, parce que quand bien même on peut dire des provocations ou de son propre vécu, même si moi aussi j'ai eu un vécu très...
Vous allez nous raconter ça, Jérôme, bien sûr. Je voudrais juste rappeler qu'en effet, porter la main sur une femme, c'est puni par la loi. Donc c'est en effet inacceptable. Est-ce qu'elle a porté plainte ou c'est parce que vous vous êtes rendu compte et qu'elle vous a demandé de faire une thérapie? Comment vous en êtes arrivé à faire une thérapie?
Si vous voulez, moi, au départ, c'est moi qui me sentais agressé. C'est quand même voilà.
C'est possible, Jérôme. Hein, mm-hmm. Y a des femmes qui sont très agressives et qui cherchent à provoquer l'homme. Hein, ça existe.
Mais moi, je me suis senti agressé physiquement, si vous voulez. Alors que, en fait, il n'en était rien. J'étais dans un déni total, moi. Hein.
Qu'est-ce qu'elle faisait pour que vous vous sentiez agressé physiquement?
Bah en fait, ça partait sur des grosses disputes, mais dans lequel où j'étais à la source, si vous voulez. Voilà, on était un couple qui arrivait à proche de la quarantaine avec trois enfants. Et voilà, j'avais tendance un peu à vivre un peu seul et laisser supporter un peu tout sur ma femme.
D'accord, et donc elle se plaignait et vous sentiez agressé, c'est ça ?
Et voilà, bon après, les échanges verbaux pouvaient être violents, mais ça ne justifie pas.
Bien sûr,
à aucun moment donné, ça justifie. aussi la violence, en tout cas physique, et puis qui est facile pour moi. Je fais 100 kilos, ma femme, non, en fait, disons. Voilà, donc du coup, ça peut être violent. Je sais pas, ça aurait pu être dangereux déjà, mais c'est surtout violent et traumatisant pour elle.
Bien sûr, évidemment. Mais donc, vous vous sentiez agressé et votre seul moyen de répondre, c'était d'être violent avec elle, c'est ça ? C'est comme ça oui. que vous étiez programmé, en quelque sorte.
Hein. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais, sauf que je suis resté dans un déni, j'ai voulu en parler à des amis autour de moi et j'ai trouvé que, et surtout aujourd'hui avec le recul, que la violence conjugale était très très acceptée. Parce que la plupart des personnes à qui j'en ai parlé étaient voilà, ne m'ont... Il y a une personne qui m'a dit que c'était inacceptable. Après,
mais les autres vous disaient après tout, elle te cherche, elle te trouve, quoi, c'est ça?
Mais ça pouvait être ça, ou sinon des non-dits, si vous voulez. Bon, mais ça va aller mieux, et puis tu le sais maintenant, alors que non, je crois que non, c'est pas possible. Et ma femme est restée avec moi quand même. Je tiens à le souligner. Elle a cru en nous, elle a cru en moi, alors que moi je n'y croyais pas, quoi. Mais moi, le premier conseil que je peux donner à une femme qui se fait frapper, c'est de lui dire non.
Bien
il
sûr.
Faut s'en aller.
Il faut, en tout cas, il faut dire soit tu te soignes, soit on arrête. Mais faut-il le dire de manière... on peut pas donner ce conseil comme ça de but en blanc, parce que ça peut provoquer encore plus de violence chez l'homme qui, tout d'un coup, si on le quitte, devient...
Surtout un homme, comme dans le cas de Jérôme, qui se sent agressé, le confronter à une menace, ça peut être assez terrible.
Disons que nous, la gendarmerie est quand même intervenue. Hein. La gendarmerie est intervenue et donc moi j'ai eu quand même une injonction de soins.
D'accord. C'est ce que
procureur
que
de la République.
Mais très bien d'ailleurs. C'est
bien. Oui, très bien.
Vous l'avez accepté
bien.
Au moment où vous avez eu cette injonction de soins. Vous avez compris pourquoi
Oui. Alors oui. J'ai pas compris. Enfin, je voyais pas pourquoi cette violence. Hein. Je savais pas y mettre des mots. Mais oui, je l'ai accepté pour ma femme, pour mes enfants, parce que si j'ai été violent, mes enfants étaient là aussi, quoi.
Bien sûr.
Et voilà, et c'est violent pour les enfants, faut surtout pas oublier ça, quoi. C'est une horreur. C'était une horreur. Et donc, du coup, moi, j'ai pu rentrer en thérapie, mais j'ai envie de dire, grâce à... malheureusement,
grâce à la loi, oui, mais grâce à la loi qui quelque part, voilà. Elle est là aussi pour remettre le surmoi, remettre de l'ordre dans nos difficultés humaines, hein, Jérôme. Et alors, en thérapie, vous avez compris d'où vous venez cette violence ?
Après, les violences, oui, en thérapie, mais disons que oui. Oui, puisque j'étais dans un environnement violent, j'avais un frère plus âgé, voilà, qui me frappait aussi, hein, on avait 6 ans d'écart, donc voilà. Donc du coup, tout ça remontait aussi de l'enfance, mais j'étais moi bloqué et surtout dans le déni de tout ça. C'était des choses que j'avais enfouies il y a très longtemps, qui étaient bien enfouies, bien bloquées, et voilà, ça ressortait dans la colère et dans la peur, parce que j'étais en fait vous pouvez pas dire autour de vous quand vous êtes un gros solide plutôt au physique plutôt de pilier de rugby, de dire que vous avez peur, vous n'osez pas.
Et vous aviez peur donc, de quoi?
De tout.
Oui.
Si vous voulez,
c'est ça, c'est le petit garçon qui prenait des
exactement.
Coups de son grand frère qui finalement dominait l'adulte que vous étiez.
Exactement.
Et il fallait guérir le petit garçon pour devenir un adulte.
Tout simplement.
Tout simplement, non, c'est pas simple, justement.
Oui, enfin, mais aujourd'hui, ça me paraît bien clair. Si vous voulez, pendant des années, moi, j'étais dans un brouillard qu'entretenait le...
Vous savez
le
à quel point votre témoignage peut aider?
Mais c'est courageux de le dire, et merci pour les auditeurs d'entendre qu'on peut, quelle que soit la raison, avoir été violent, être amené à l'admettre parce que la loi l'impose. mais qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir soi-même, individuellement, comprendre, mettre en place autre chose. Et que le couple qui, à un moment, est en danger, n'est pas forcément condamné. Je pense que c'est vraiment... aujourd'hui, c'est indispensable qu'on parle des violences conjugales, bien sûr. Mais bien sûr, il faut dire n'admettez pas la violence, partez, etc. Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas se dire oui, mais comme certains s'en sortent parce qu'il y a des injonctions de soins ou des thérapies, je vais, alors que je me sens victime, encore essayer. Mais il faut quand même conserver cette notion d'espoir, au minimum en l'être humain, savoir qu'il y a la possibilité pour un certain nombre. S'ils comprennent qu'ils sont violents, s'ils veulent bien entendre qu'ils sont violents, de pouvoir s'en sortir. Et il y a de plus en plus de mesures qui sont proposées. Les injonctions de soins sont de plus en plus suivies. J'imagine que pendant que vous étiez, pendant l'injonction, vous étiez soumis à un contrôle judiciaire, au moins pour voir si le suivi thérapeutique avait bien lieu. Donc il y a quand même des mesures qui heureusement fonctionnent. Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle. Mais je crois qu'il est important aussi, dans cette émission, Brigitte, et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, de conserver un minimum et de lucidité et d'optimisme, en se disant on peut avancer.
Et moi, je conclurai, Jérôme, grâce à votre témoignage, que quelque part, au départ, vous avez été une victime, et comme souvent, dans les personnes qui sont violentes, à l'origine, il y a une victime. C'est vrai dans la violence des abus sexuels, c'est vrai dans la violence conjugale. Et si, en tant qu'enfant, vos parents ou la société avaient pris conscience de de ce que vous subissiez, vous ne seriez pas devenu un mari violent et vous auriez été soigné en amont. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important toujours d'essayer de comprendre l'histoire de chacun. Alors je sais bien qu'on ne peut pas faire des généralités avec l'histoire de chacun, mais votre témoignage, vraiment Jérôme, je vous en remercie du fond du cœur.
Merci. C'est moi qui vous remercie.
Merci bien. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec Jung qui nous parlera, enfin c'est plutôt Carole Cedillo qui nous parlera des relations violentes façon Jung.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons Carole Cedillo, la réincarnation de Jung. Bonjour Carole.
Bonjour Brigitte.
Non, pas la réincarnation, je plaisante bien sûr. Vous êtes pédagogue jungienne et conférencière, donc vous nous aidez à mieux comprendre Jung, et je le dis, on a besoin de Jung aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de symbolisme dans notre société. Alors lui, qu'est-ce qu'il dirait de ce sujet délicat de la violence conjugale?
Alors, avant de parler de la violence conjugale, je pense qu'il parlerait de la violence en tant que telle. Qu'est-ce que cette violence? Puisque cette violence, forcément, elle va nourrir un de ces grands concepts qui s'appelle l'ombre. Donc, encore une fois, chacun d'entre nous est porteur de cette violence qui se manifestera, qui ne se manifestera pas, ou qui se transposera en autre chose, puisque c'est de l'énergie, cette violence, avec laquelle, effectivement, on peut construire, on peut détruire. Donc, encore une fois, pour Jung... où il va mettre en visibilité avec cette violence dans quelque chose de pathologique, c'est-à-dire une maladie psychique, pathologiquement parlant. Et ça sera le cas du psychotique, ça sera le cas du pervers, où effectivement il y aura cette violence et qui sera, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous Anne-Laure et vous Brigitte, qui sera due, cette violence, à quelque chose dont on est porteur dans le sac à dos. C'est-à-dire, il y a un antécédent familial, il y a eu de la maltraitance. On a été victime de cette violence, on l'a subie. Et encore une fois, comment elle s'est engrammée à l'intérieur de l'individu? Soit elle devient...
Vous voulez dire qu'il y a un noyau noir à l'intérieur qui peut ressortir à tout moment?
À tout moment. Alors bien sûr, après, cette violence, elle se manifestera dans la vie en général, dans les relations conjugales, dans les relations sociales, professionnelles ou autres. L'important, c'est entre... Justement, si on parle d'ombre, c'est que quelque part, il va y avoir de la lumière, c'est-à-dire deux parties en l'être humain. Et Jung appuie justement sur ce qui est de l'ordre du conscient et de l'inconscient. Et comment ça va fonctionner? Justement avec qu'est-ce qu'on va mettre entre ces deux pôles-là? Et qu'est-ce qu'on va mettre entre ces deux pôles-là? L'éducation, les valeurs, la conscience, l'évolution. Et c'est ça qui va effectivement faire toute la différence. Maintenant, quelqu'un qui a été victime de cette violence, probablement, à un moment donné, il deviendra aussi un bourreau. Il utilisera cette dynamique, en fait, pour se protéger, pour régler des comptes, pour se venger, peu importe le mot. Et dans un premier temps, il ne saura pas pourquoi. C'est pourquoi le témoignage de Jérôme, effectivement, était très, très important. C'est à quel moment l'individu va s'engager pour donner du sens. Mais d'où elle vient cette violence ?
Justement, Carole Cédillo et Anne-Laure Buffet, est-ce que quand on a ce noyau violent en nous, ce noyau noir, cette ombre, on peut soi-même le réaliser et prendre conscience de d'où ça vient, ou est-ce qu'on est forcément obligé d'être aidé ?
Je pense qu'en finalité, on va avoir besoin d'être aidé. Besoin d'être aidé, c'est à partir du moment donné où l'individu, soit parce qu'il a entendu, ou il a vu dans le regard de l'autre la peur, et qui va effectivement le renvoyer lui aussi à quelque chose qui va le réveiller, ou c'est le monde extérieur peut-être, ou c'est là, si tu ne te soignes pas, je te quitte. Ça aussi, ça peut, qui va faire que j'y vais ou j'y vais pas. Qu'est-ce qui va faire que l'individu va se dire, ok, où je reste dans le déni, où je me sauve pour sauver l'autre.
Oui, il y a un facteur déclenchant, comme vous dites. Bon, après, rester dans le déni, c'est aussi de la part de la responsabilité de chacun. Il y a une volonté de rester dans le déni à un Absolument. Moment. Donc, il faut assumer les conséquences de ce choix-là, qui est « je n'en ferai rien, pourtant je suis alertée ».
Mais attention, parce que quand on dit « rester dans le déni », c'est inconscient. On reste inconscient, dans le déni, oui, de manière inconsciente. Attention, on ne fait pas exprès de rester dans le déni. C'est important à dire, parce qu'on peut avoir, par exemple, un mari alcoolique qui est dans le déni de son alcoolisme. Il ne fait pas exprès. Il a réellement l'impression qu'il ne boit pas tant que ça. Et pourtant, sa femme a raison, il est alcoolique. Je prends l'exemple, un exemple très basique, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, être dans le déni, c'est un acte involontaire.
C'est inconscient.
C'est important, parce qu'on a tendance aujourd'hui à utiliser ce mot à tort et à travers. Je parle pas pour vous. Surtout pas. Non, mais c'est vrai, les médias l'utilisent de plus en plus, et on a l'impression que je fais exprès de ne pas savoir que je suis comme ça.
On est dans le déni, d'après beaucoup de médias, soit on sort du déni et tout d'un coup on devient résilient. En gros, si je schématise aujourd'hui.
Non, donc
c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, sinon il faut aller à Lourdes là, c'est miraculeux. Donc en fait, non, ça va passer par l'engagement de la personne qui ça peut être une toute petite chose. Chose qui fait qu'il y a quelque chose qui va vouloir sauver, comment je peux me sauver. Et ça peut être, encore une fois, comme ça a été dit à plusieurs reprises dans les témoignages, la peur dans le regard de l'autre qui va aussi réveiller la personne. Alors la menace, entre guillemets, mais qui peut être salutaire si tu ne te soignes pas. Alors encore une fois, il n'y a pas d'effet miraculeux. Ça veut dire que là, l'individu, et si on reste toujours dans la pensée de Jung, il y a quelque chose en lui qui va se manifester. C'est une valeur qui s'appelle le courage. Et on en avait parlé, je crois, la fois dernière, le courage. Revenons sur toujours l'étymologie du mot, qui fait qu'il y a quelque chose où l'individu va être touché.
Au
niveau du cœur, c'est quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est un état de grâce ? Est-ce que c'est parce que c'était écrit comme ça ? Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Mais il y a un petit moment où il y a quelque chose qui se passe, et que c'est peut-être le moment... Le moment juste.
C'est la lumière qui arrive.
Oui, comme l'exemple aussi qui a été dit tout à l'heure, la personne qui va écouter le match de football et puis il entend...
Mais là, c'était hors antenne, Carole Cédillo.
Ah, c'était hors antenne.
Bah oui, j'ai raconté cette anecdote hors antenne. Alors là...
Il me semblait qu'on l'avait dit à l'antenne, mais là, c'est ça. C'est quelque chose qui fait que c'est ce moment-là, c'est un moment juste où l'individu, il y a quelque chose qui est prêt en lui aussi pour aller sauver quelque chose de lui-même.
Alors, je suis obligée de la raconter maintenant, l'anecdote.
Eh
bien, c'était il y a une bonne dizaine d'années, je crois. J'étais sur une radio où on parle beaucoup de foot. Un jour, quelqu'un, un auditeur, par hasard, écoute mon émission juste avant le foot, etc. Et puis, il l'écoute, et puis il se met à écouter l'émission. Et puis, un jour, il m'appelle. Il me remercie parce que, grâce à mon émission, il s'est rendu compte que c'était pas normal de battre sa femme. Et donc, il avait commencé une thérapie et son couple allait mieux et sa femme avait...
Voilà, donc voilà une synchronicité qui fait qu'il y a un moment juste, cette personne malgré effectivement que c'était une personne violente qui battait sa femme. Quelque chose
était prêt. Il trouvait ça normal. Hein,
oui,
c'était,
pour oui, lui, quelque chose était prêt. Alors ça, encore une fois, ça n'arrive pas à tout le monde et à tout moment. Hein.
Mais c'est important de dire que ce n'est pas à tout moment ou à tout le monde, parce que les personnes qui sont confrontées à des conjoints violents voudraient savoir comment leur faire prendre conscience de la violence. Et il n'y a pas de moyen de faire prendre conscience.
Bien sûr, il n'y a pas de méthode.
Alors, il faut mettre des alertes, mais si on pouvait mettre des alertes, quand on est avec une application, il faut mettre des alertes, il faut dire, il faut signaler, il faut peut-être partir. Enfin, ça dépend des situations, on ne peut pas faire de généralité. Mais ce n'est pas parce qu'on partira ou qu'on va rester ou qu'on va proposer des thérapies ou pas que la personne prendra conscience. Bien sûr. À un moment, ça se déclenche ou pas.
Oui, oui.
Et si, en revanche, si ça se déclenche et si elle manifeste le besoin, la demande d'aide, elle peut le manifester de plein de manières, là, c'est le moment de l'accompagner aussi et de la soutenir et pas de l'enfoncer en disant « je te l'avais bien dit ».
Bien sûr.
Mais on ne provoque pas la prise de conscience chez l'autre, on l'accompagne.
Oui, 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 bien sûr. C'est un moment qui est là. Mmh. Et comme vous l'avez dit aussi, Anne-Laure, à plusieurs reprises, oui, on ne peut pas s'en sortir seul. Mmh. Et encore une fois, on n'a pas démérité. Au contraire, on a eu beaucoup de courage en téléphonant au psy ou au thérapeute pour aller dans cet accompagnement.
Bah, d'autant qu'aujourd'hui, Dieu sait que c'est dangereux d'être une personne victime, mais on peut entendre les victimes, même si il y a encore des difficultés pour certaines prises en charge. Mais on peut les entendre, on entend le mot victime, mais il faut être sacrément courageux et volontaire quand on est une personne violente, quand on est un homme violent, pour décrocher son téléphone et pour oser aujourd'hui appeler quelqu'un en disant « Bonjour, je vous appelle, j'ai besoin d'une thérapie, je suis violent ».
Bien sûr.
C'est compliqué.
Oui, oui, c'est compliqué. C'est d'autant plus courageux. Oui.
Voilà, un acte de courage. Ouais. Merci beaucoup, Carole.
Merci.
C'est dit, je rappelle, votre dernier livre, Jung, l'explorateur de l'esprit. C'est aux éditions d'Hervie. Un très, très beau livre. Allez, on se retrouve dans un instant avec vos témoignages, toujours sur Sud Radio. Merci de prendre la parole. 0826-300-300.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lay, Sud Radio. Le Love Conseil.
Anne-Laure Buffet, est-ce qu'il vous arrive encore d'envoyer une lettre ?
Oui.
C'est bien,
oui.
Bravo. Vous savez que c'est de plus en plus rare.
Je sais, et je suis très touchée quand j'en reçois, mais ça m'arrive d'en envoyer.
C'est superbe hein, de recevoir une lettre. Alors, moi je vais vous parler de cette lettre d'amour. C'est vrai qu'on n'écrit plus beaucoup, et notamment plus beaucoup de lettres d'amour. Et c'est dommage, parce que l'écriture, c'est d'abord un révélateur de soi-même. Et voilà mon love conseil. Je vous propose d'écrire une lettre d'amour à votre partenaire et vous démarrez cette lettre en sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de l'envoyer. Vous allez l'écrire, vous la faites donc dans cet esprit afin que vous n'ayez aucune retenue et que vous osiez écrire tout ce qui vous passe par le cœur ou par autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. Et je vous impose d'écrire au moins une petite page, de préférence avec un stylo, ce serait mieux. Voilà. Bon. Et l'intérêt de cette lettre, c'est qu'une fois que vous l'avez écrite, vous allez la déposer dans un coin, bien secret pour que votre partenaire ne tombe pas dessus si vous n'avez pas envie que votre partenaire la lise. Et dans une semaine ou 15 jours, vous allez la relire et vous allez donc découvrir à froid, si je puis dire, ce que vous déclarez à votre partenaire. Et ce sera une introspection sur votre relation affective tout à fait intéressante. Parce que vous verrez s'il reste quelques rancœurs entre les lignes, vous verrez si au contraire vous êtes encore très amoureux, à moins que vous ne soyez peut-être déçu, que vous ayez finalement pas eu tout ce que vous attendiez de cette relation, et que peut-être, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être fini cette histoire. Bref, et puis si cette lettre, vous la trouvez vraiment belle, ça ne vous empêche pas de l'offrir à votre partenaire qui en sera forcément tout à fait ému.
Qui voilà. En fera peut-être quelque chose. C'est intéressant parce que c'est quelque chose, de temps en temps, que je recommande en thérapie, enfin, que je propose de faire.
Je savais que vous étiez une bonne thérapeute.
C'est alors, pas dans le fait d'écrire une lettre d'amour ou de rancœur ou de questionnement à son compagnon, mais de l'écrire... Alors, je vois beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles ont des rapports difficiles avec leurs parents, et d'écrire
aux sûr.
Parents,
oui,
la mère, le père, mais d'écrire, non pas en disant « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça », parce que ça sert strictement à rien, mais d'écrire en disant « je, maintenant que je suis adulte, je prends la parole et je vais te dire ce que j'ai ressenti ». Mais pareil, sans envoyer forcément la lettre, puisque quand on leur propose, c'est « Ah non, non, mais jamais je vais pouvoir écrire. »
Non, non, c'est pour ça, c'est important de l'écrire, en sachant qu'on n'est pas obligé de l'envoyer.
C'est vraiment, c'est pouvoir libérer quelque chose et pouvoir la relire après, en disant finalement, à froid, comme vous dites, avec le recul, est-ce que aujourd'hui je ressens réellement ça, ou est-ce que je ne l'avais pas ancré, installé, mais c'était plus un côté très émotionnel chez moi qui parlait, et aujourd'hui de manière rationnelle, adulte, je suis complètement capable de me détacher de ça. C'est un bon exercice à faire. Mm-hmm.
Et on peut, pourquoi pas aussi, s'écrire une lettre à soi-même. Oui. Ça peut se faire du bien aussi, ou du mal, mais au moins on saura si on a encore de l'ombre en soi. Oui,
essayer de s'écrire à soi-même une déclaration d'amour.
Oui.
C'est bien, je t'aime, je m'aime, très bien. Et derrière,
et après,
oui, j'en fais quoi de ça? C'est un exercice qui est compliqué aussi.
Peut-être. Allez, on continue avec vous. Oui,
je vous propose de le faire, Brigitte.
Nadia est avec nous. Bonjour Nadia.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Nadia.
Merci de me prendre à l'antenne.
Je vous en prie. Merci à vous.
Ben, moi, mon témoignage, en fait, ce serait peut-être, mais bon, je n'ai pas suivi tout le début de l'émission, mais certainement que ça a déjà été dit, ce serait d'éduquer aussi autour de soi nos propres enfants, notre entourage, qu'à savoir le premier signe de violence, qu'il soit verbal ou physique, n'est pas acceptable. Moi, j'ai connu la violence assez jeune de la part d'un compagnon, j'avais 20 ans. J'avais déjà mon propre appartement à l'époque, et c'était un garçon qui pouvait être Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc tout à fait charmant, adorable, mais il avait la mauvaise habitude de boire un petit peu trop de temps en temps, et il avait le vin mauvais. Et il m'est arrivé une fois, donc je ne sais plus ce que j'ai dû lui dire. On était en pleine rue, il était avec un ami à lui, et ça a dû lui donner des ailes. Et je me suis reçu un coup de tête, alors que je n'y attendais absolument pas. Et ça a été donc la première fois...
Le premier acte de violence. Oui. Et son ami a réagi ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ils étaient, je pense, aussi imbibés l'un que l'autre. Ceci dit, on était jeunes. Hein. J'avais 20 ans, il en avait 25.
Ça excuse rien.
Copain. Oui, mais pour dire qu'ils étaient un peu, pas débiles, mais bon, voilà, un peu limite dans leur tête. Et j'étais tellement sous le choc que sur le moment, je suis rentrée chez moi, escortée par les deux lascars, entre guillemets, en me demandant ce qui allait se passer. Et à un moment donné, j'ai pu m'échapper de chez moi. Et une voisine qui entendait, voyait un petit peu ce qui se passait, m'a dit « Viens, qu'est-ce qui se passe? Viens te réfugier. » Et en me réfugiant chez elle, j'ai pu appeler ma mère qui est venue me chercher. Et à la suite de ça, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai eu pitié de ce garçon qui a fait apparemment une crise de panique, de tétanie ou je ne sais quoi, etc., etc., en me disant « je vais me suicider, je ne peux pas vivre sans toi », etc. Je lui ai pardonné tant bien que mal, jusqu'au jour où une nouvelle scène de violence s'est déclarée, un peu moins forte, mais toujours là. Et là, j'ai compris que c'était pas qu'un accident, qu'il recommencerait forcément malgré ses promesses. Et j'ai organisé ma fuite de chez moi, malheureusement, mais j'ai organisé ma fuite et j'ai compris que lorsqu'un garçon, enfin lorsque quelqu'un est violent une fois, il le sera de nouveau s'il ne prend pas les mesures, comme votre auditeur tout à l'heure.
Surtout que le premier acte de violence, il est très, il est très fort. C'est pas un acte comme ça, une sorte de claque qui sort parce qu'on est en colère ou une bousculade. C'est quand même, enfin. C'est quand même. C'est un truc qu'on fait entre mecs, mais on fait pas ça à une femme.
Et j'avais l'arcade enfant, donc c'était visible.
Oui, il ne pouvait pas nier ce qu'il vous avait fait. Mais je crois, encore une fois, que là, ce que vous avez fait, beaucoup de femmes le font, et on a tous tendance, quand on n'est pas prévenu, à se dire, bon, ça peut arriver, il me demande pardon. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que le pire, c'est qu'il était certainement sincère quand il dit qu'il ne recommencera pas. Mais le problème, c'est que s'il n'accepte pas de suivre des soins, il est pratiquement inévitable qu'il recommence. C'est ça que les personnes violentes doivent entendre.
Oui, absolument. Absolument, il ne faut pas s'obstiner à essayer de savoir si la personne qui demande pardon, pour autant qu'elle le fasse, est sincère ou pas. Parce que la question n'est pas là, c'est est-ce que tu as compris ton geste? Est-ce que tu es capable de travailler dessus? Est-ce que tu es capable d'aller en parler à l'extérieur du couple? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose pour que, de réel, de concret, de tangible, pour que ça ne se reproduise pas? Parce que sinon... Vous savez, c'est un petit enfant qui, à 5-6 ans, va prendre le vase de maman, le jette par terre, et puis qui se fait gronder et va dire « Oh pardon maman, je te promets, je recommencerai plus ». La prochaine fois où il est en colère parce qu'il n'a pas son paquet de gâteaux, il prend, si c'est pas un vase, il prend un verre et il recommence. Mmh. Donc, dire pardon, c'est bien. J'allais dire, c'est la moindre des choses, pour autant qu'on soit un peu civilisé. Mais c'est pas le pardon qui guérit, qui fait comprendre, qui répare et qui permet de contrôler et de transformer la violence en autre chose.
Oui,
donc, et c'est important aussi de le dire. C'est comme ne pas confondre les excuses et les explications. On peut expliquer un certain nombre de choses ou de raisons pour la violence ou la colère de quelqu'un. C'est pas pour autant qu'on les excuse. Donc, et puis la façon dont la personne va demander pardon. Il y a le pardon où on sent une sincérité et puis le pardon qui pourrait être remplacé par bon ça va mais maintenant tais-toi quoi. Donc encore là je suis correcte. Donc c'est le pardon, demander pardon, c'est ne doit jamais justifier chez la personne qui a été victime, qui a été agressée, ne doit jamais être la raison pour laquelle elle offre encore une chance parce que peut-être que ça va s'arranger puisqu'il a demandé pardon, c'est qu'il a compris. Non.
Oui, puis, c'est et
un,
puis surtout,
ça nécessite et puis... un travail de toute façon.
Et puis en plus, il nous aime, hein, parce que c'est toujours le mot qu'on entend, c'est « je t'aime, hein, je t'aime tellement hein. ».
Ce qui est un peu vrai, mais pas complètement, c'est-à-dire que souvent, ce sont des personnes qui ne s'aiment tellement pas qu'elles ont besoin de belles personnes pour se sentir aimables. Et donc, il vous aimait parce que vous êtes certainement une belle personne et que le fait que vous soyez avec lui le rendait plus aimable. C'est ce processus-là souvent hein, chez des hommes.
C'est la dépendance affective poussée à l'extrême.
Donc là encore, quand il dit qu'il ne peut pas vivre sans vous, c'est quelque part assez vrai, parce que vous êtes sa béquille qui le renforce dans son estime de lui-même. Mais une béquille, ça marche un temps, si je puis dire, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que c'est une béquille, et il faut travailler sur son estime de soi, et à ce moment-là, on cesse d'être un homme dépendant, violent. Parce que beaucoup d'hommes violents sont des hommes qui soit ont été eux-mêmes victimes, on l'a entendu tout à l'heure avec Jérôme, soit des hommes qui ont vu un père violent, soit des hommes qui ont eu une mère sous emprise, qui a mis l'enfant sous emprise. Hein. Il y a des petits garçons qui ont eu des mères terribles et qui ensuite, quand leur femme devient mère, deviennent très violents. Et là, encore une fois, ça n'excuse rien, on est d'accord. Mais il faut bien comprendre que la violence chez un homme, elle est, il n'y a pas une raison.
Non, elle est multifactorielle.
Et c'est pour ça que c'est toujours important de pouvoir oser expliquer toutes les raisons qui font qu'un homme devient violent pour que chaque homme, chaque femme puisse éviter le pire. Quoi.
Et c'est très important parce que, encore une fois, dire tout ça, ça n'est absolument pas excuser la violence masculine, ça n'est absolument pas minimiser tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on dénonce, et que ce soit les féminicides et toute forme d'agression, quelle qu'elle soit. C'est simplement dire, il est possible, pas à 100% des cas, il est possible pour beaucoup d'hommes violents de sortir de cette violence. Accordons-leur, non pas le bénéfice du tout, mais la possibilité d'y travailler. Si on se braque, si la société se braque complètement en se disant « il est impossible qu'un homme violent ne le soit plus », d'une certaine manière, je ne sais pas, prenons un grand sac poubelle, un immense sac poubelle, et il faut tous les jeter d'un coup, mais je ne crois pas que ce soit le but. Mais non, il y a aujourd'hui parfois des exagérations qui sont réellement dangereuses. Donc la violence est inadmissible, mais la violence peut se corriger, peut se comprendre, peut s'analyser, à condition bien sûr qu'il y ait une démarche volontaire de la part de la personne violente. Donc c'est pour ça que toutes ces questions méritent d'être parlées, redites et re-redites. Brigitte, c'est ce que vous faites au fil de toutes vos émissions, hein, de plus ou moins, sur tous les sujets, ça touche à ça, c'est de pouvoir dire ne jamais nier la violence, éviter le plus possible d'excuser au nom de l'amour, parce que c'est vraiment la pire des excuses qui soit, mais ne jamais non plus fermer la porte à la possibilité qu'il y ait, à défaut d'une rédemption, en tout cas un travail d'entrepris.
Merci en tout cas Nadia. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose Nadia ?
Oui, que bien appuyer également sur l'éducation de nos enfants, que ce soit nos filles ou nos garçons. Moi j'ai deux filles qui ont 22 et 19 ans et très tôt je leur ai expliqué qu'elles n'avaient pas accepté aucune violence qu'elle soit, verbale et encore moins physique. Et je n'ai pas de garçon, mais je pense que si j'avais eu un petit garçon, j'aurais eu à cœur de lui faire entendre et l'éduquer dans le respect de chacun, que du sexe féminin ou du sexe masculin. Parce que comme disait l'un de vos invités, l'avenir c'est nos enfants.
Absolument. Voilà, ce qu'il faut dire aussi aux garçons, vous n'en avez pas eu Nadia, mais je crois que c'est important de le répéter, ce qu'il faut aussi c'est que les garçons connaissent la frustration. Il y a beaucoup trop de garçons aujourd'hui qui sont élevés par des mères seules et qui en font des enfants rois. Et un enfant roi, ça peut devenir un homme violent.
Oui.
Ah, mais voilà. Vous avez parfaitement raison.
Eh bien oui, c'est bien de le dire parce qu'on n'entend pas beaucoup non plus.
Un enfant roi, ça peut devenir... Déjà, c'est Didier Pleu que vous recevez...
Demain d'ailleurs, mercredi pardon, oui.
Mais qui a écrit un très bon ouvrage sur de l'enfant roi à l'enfant tyran. Et alors, en l'occurrence les garçons, ça peut être les filles aussi, mais de toute façon, à partir du moment où on sacralise quelqu'un, on le met en danger.
Absolument. Merci beaucoup Nadia. Merci. On se retrouve dans un instant, toujours avec vous sur Sud Radio 0826 300 300.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors comme tous les lundis, je vais vous faire un petit point sur le ciel astral. C'est toujours les Vierges qui sont à l'honneur. Elles ont Vénus, Mars dans leur signe. Ça va très très bien pour les Vierges. Elles peuvent même faire une belle rencontre. Les deux autres signes qui sont assez à l'honneur, c'est les Taureaux. Et puis les Scorpions qui pourraient accomplir de belles prouesses sexuelles. Et puis la note un peu triste, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est pas terrible cette semaine. Rester un petit peu plus tranquille, ça ira peut-être mieux après. Vous savez bien que la roue tourne toujours en astrologie. Et on va conclure avec Marilyn aujourd'hui. Bonjour Marilyn.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez vécu, vous, 20 ans avec un homme violent.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Vous n'êtes plus avec lui aujourd'hui.
Ah non, tout à fait. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que déjà, effectivement, je suis votre émission depuis des années.
Merci Marilyn.
Et puis vous êtes quelqu'un formidable, je me répète, mais il faut quand même le mentionner parce que c'est important pour nous. Donc merci pour tout ce que vous faites. J'ai un niveau social assez élevé, mais effectivement j'ai subi des violences conjugales et en fait je voulais absolument témoigner parce que pour nous les victimes c'est déjà difficile de témoigner, mais c'est cette emprise qui est difficile à comprendre en fait, de l'extérieur, parce qu'on n'arrive pas à parler en fait. On n'arrive pas à parler parce que le partenaire violent utilise la culpabilité dans laquelle il nous enferme. Et vraiment, on est vraiment enfermé dedans pour qu'on soit sa chose. Donc à partir du moment où on est dans cet engrenage, pour en sortir, c'est très difficile. Moi, je n'ai jamais parlé à ma famille, ma famille ne l'a jamais su. Mes enfants croyaient qu'on était un couple idéal, tout le monde croyait qu'on était un couple idéal. Alors que effectivement les violences que je subissais, elles n'ont pas été nombreuses en termes de quantité, mais en termes de gravité, elles ont été très violentes.
Alors, dans ce que vous nous dites, Marilyn, on a l'impression que vous étiez avec quelqu'un d'assez pervers, c'est-à-dire qui avait l'air d'être tout gentil en apparence et qui se réservait son côté Mr. Hyde avec vous en huis clos. Mmh. Hein.
C'est exactement, oui. Exactement. Et comme vous l'aviez dit, c'est un enfant roi. Il a été éduqué comme ça. Donc un enfant roi, effectivement, il n'a pas été frustré pendant son enfance. On lui a pas, voilà, il n'a pas vécu la frustration. Donc après en couple, il ne veut pas vivre la frustration. Donc c'est pas lui qui cède, c'est nous, la compagne, que ce soit un homme ou une femme.
Vous deviez subir, j'imagine aussi ces violences et ces désirs sexuels, je suppose.
Mais oui, bien sûr, effectivement. À partir du moment où on s'oppose à lui, c'est là où est la difficulté. La difficulté, elle vient par la violence physique et elle peut effectivement se traduire avec une violence sexuelle et un comportement de soumission dans l'acte sexuel. C'est aussi ça qui m'a permis de m'en sortir. C'est que d'entendre de vos paroles que effectivement un nombre de rapports sexuels toujours demandant et jamais satisfait est un signe aussi de
violence, de, voilà, bien sûr.
Oui, de violence et de non-satisfaction.
Bien sûr. La violence dans la sexualité, elle est également à noter. Alors aujourd'hui,
nous, en tant que victime, en fait, on s'en aperçoit. Enfin, on a des, comme si on avait des œillères, parce que on est tout le temps culpable, donc coupable. Donc, dans cette culpabilité, on n'en parle même pas. Ce qui me paraît important à mentionner, c'est que j'en ai jamais parlé à ma famille pendant 20 ans. Donc, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais il y a un problème chez toi, puisque tu t'es jamais confiée, voyez.
Mais au début, vous étiez très amoureuse, je suppose, et il était gentil.
Alors, le début, c'était vu que c'était un pervers, forcément, il s'adaptait à mon caractère. Il a su être très, très, très gentil pendant 2 ans.
C'est ça.
Et les violences, bien sûr, ont débuté après, quand il a su bien me connaître, savoir bien mes faiblesses. Effectivement, les violences ont débuté après.
C'est ça. Quand vous étiez déjà un petit peu sous son emprise.
Emprise, tout à fait, tout à fait.
Et à ce moment-là, vous devenez sa chose.
C'est ça, exactement.
Comment vous faites pour le quitter? C'est comment vous qui partez? Comment vous avez fait pour pouvoir partir?
C'est moi qui ai parti et il a utilisé les enfants contre moi en disant que j'étais responsable des problèmes du divorce. Il a eu la garde pratique totale des 3 enfants. Mm-hmm. Donc au quotidien, c'est très difficile à vivre. Donc j'ai récupéré la garde alternée il y a l'année dernière. Mm-hmm. Mais effectivement, les enfants sont aussi les victimes de ce genre de personnage, dans le sens où ils croient les dires du papa, qui est forcément plus fort que la victime.
Alors, il n'est pas forcément plus fort. C'est-à-dire dans que très enfants, schématiquement, oui. Les enfants, ils ont besoin d'un repère qui va leur paraître stable et oui. ils vont pas aller analyser si le repère stable est également dangereux. Il y a quelque chose de fixe. Et malheureusement, avec les personnes violentes et surtout les manipulateurs pervers, leurs propos semblent stables. Je dis bien semblent. Hein. Ils semblent cohérents, surtout pour les enfants. Donc un enfant va se tourner, en l'occurrence si c'est le père, il va plus légitimement se tourner vers le père parce qu'il va se sentir protégé. Il a l'impression qu'il y a un équilibre, même si tout ça est une immense duperie dont vous vous êtes rendu compte. Mais c'est vrai que les enfants sont victimes et ils sont d'une certaine manière... doublement victime, puisqu'il y a ce risque qu'un jour, soit ils répètent en étant à nouveau victime, soit ils deviennent bourreaux. Donc ils sont... Mais qu'en plus, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, heureusement, vous en parlez, heureusement, beaucoup de personnes le font, mais ils sont souvent les grands absents ou les grands oubliés de toutes ces campagnes de prévention qu'on fait. Donc que vous, Marilyn, vous le disiez, que Nadia, avant, ait pu le dire, et puis pendant l'émission et toutes ces émissions, on dit « n'oublions jamais les enfants », etc. C'est indispensable.
C'est ça, bien sûr, bien sûr.
Alors, vous êtes parti, j'imagine, vous avez préparé votre fuite discrètement, parce que dans ces cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Hein.
Tout à fait. On n'a pas le choix, de toute façon. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir.
Quel a été l'élément déclenchant qui vous a fait prendre conscience que de toute façon, il fallait partir? Parce que 20 ans, c'est long.
J'ai surpris des tromperies, en fait. Donc, des conversations sur Badou avec tromperie derrière. Des absentéismes, des nuits complètes pendant plusieurs fois par semaine.
Marine, excusez-moi, je vais être un peu brutale, mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose de concret que vous avez pu partir. C'est-à-dire que s'il n'y avait rien eu de concret malgré la violence, est-ce que vous pensez, aujourd'hui avec le recul, est-ce que vous pensez que si il n'y avait pas eu d'éléments concrets, même si vous vous rendiez compte qu'il y avait de la violence, est-ce que vous auriez pu partir?
J'aurais pas pu, non.
Alors, excusez-moi d'insister, mais je pense que ça aussi, il faut que les auditeurs, les auditrices l'entendent. C'est que c'est tellement hallucinant, cette forme de violence, surtout quand elle est essentiellement psychologique. Quand l'entourage dit « mais pourquoi t'es pas partie ?», c'est parce qu'elle est sidérante, parce qu'il y a l'emprise et que la victime a besoin, un peu comme Saint Thomas, d'une preuve. Et il n'y a absolument pas à culpabiliser là-dessus, mais c'est pour les gens qui ne comprennent pas et qui doivent l'entendre. Encore une fois, cette violence, elle est tellement délirante et disproportionnée que la victime se dit « c'est pas vrai, j'ai rêvé, ça n'existe pas, c'est de ma faute, blabla ». Et c'est au moment où il se passe quelque chose qui semble finalement assez anodin, entre guillemets, il ne vous a que trompé là où il pouvait peut-être vous frapper. Je minimise, mais attention, je minimise pas du tout. Hein,
je comprends bien.
Mais je crois qu'il faut vraiment que les gens l'entendent. C'est pour les personnes qui sont victimes de violences psychologiques, qui n'arrivent même plus à calculer qu'une claque est de la violence. Pour elles, c'est une continuité. Elles ont besoin de quelque chose d'extérieur à leur couple, mais qui abîme le couple. Et c'est souvent l'adultère qu'elles attendent ou dont elles vont se servir pour pouvoir partir. Parce qu'elles n'arrivent plus du tout à remettre en fait les choses normales en place. Mais c'est courageux d'être parti.
Oui, bien sûr. J'ai un autre témoignage qui est important pour comprendre aussi. C'est une dame aussi qui a subi des violences pendant des années. Et en fait, son mari l'a frappée un jour alors qu'ils étaient à l'hôtel. Donc à l'hôtel, dans un cadre qui n'était pas chez eux. Et ça a été l'élément déclenchant pour qu'elle puisse partir, qu'elle ait la force de dire stop. Voilà, le fait qu'il soit à l'hôtel et qu'il ait frappé à l'extérieur de chez elle a été l'élément déclenchant pour partir. Donc pour vous dire comme c'est ça tient à pas grand chose à la fois, et à la fois ça paraît dément parce qu'on se dit purée, pourquoi subir tant d'années alors que voilà quoi, c'est
oui incroyable. Mais c'est aussi un des aspects de l'être humain, Marilyn. L'être humain est capable de s'adapter à, alors c'est formidable quand c'est des adaptations positives, mais l'être humain est capable de s'adapter à des choses terribles et on s'adapte. C'est aussi une des capacités de l'être humain, et on s'adapte parfois à une vie de couple qui n'en a que l'illusion. Merci beaucoup Marilyn, merci à vous et merci à tous. Merci aussi à vous Anne-Laure Buffet. Je rappelle qu'on peut voir cette conférence que vous avez faite sur YouTube.
Merci.
Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Robert Zwilly. On va mieux comprendre nos peurs face à la sexualité, justement. À demain.